France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Olivera Guyon.
Bonjour Katia Bugnati.
Bonjour.
Bienvenue à France Musique, merci d'être avec nous ce matin.
Merci
à l'occasion
de m'inviter.
De la sortie de votre tout dernier disque qui paraît aujourd'hui même chez Sony, disque intitulé Labyrinthe. C'est votre 7e disque solo. Alors ici, pas de compositeur unique à l'honneur comme votre dernier disque Schubert ou d'autres consacrés à Chopin, Liszt ou Rachmaninoff, mais un programme ouvert, généreux, Satie, Gainsbourg, Villa-Lobos, on va en écouter quelques extraits. Un projet qui nous promène au cœur de vos émotions comme un parcours de vie. Et je pourrais même dire pour commencer qu'on a l'impression de vous connaître un peu mieux, Katia Bugnati-Jvili, avec ce disque.
C'est vrai.
C'est ce que vous vouliez.
Et pourquoi pas? Oui, je pense que la raison pourquoi je fais des disques, c'est pas pour qu'on me connaît mieux, mais c'est pour mettre mes émotions du moment et se mettre complètement dans le processus de travail. Après, le résultat, ça peut être effectivement, c'est que on me connaît un peu plus qu'avant. Mais qu'est-ce que vous avez appris de nouveau, par exemple? Ça m'intéresse.
Quelque chose de plus sobre, de plus intérieur, de la grande douceur dans ce disque.
Merci. En fait, c'est drôle parce que ça s'est passé pendant après le confinement, donc l'enregistrement et le processus de travail, donc préparation, ça s'est passé pendant le confinement. Mais l'idée, ça existe déjà, ça fait plus que des ans, même je dirais presque 2 ans. Mais le temps, ça correspondait aussi à l'ambiance que je recherchais déjà avant. Ça, ce sont des coïncidences de vie, mais ça n'a aucune importance, je pense, pour le public. Mais pour moi, ça a compté parce que le travail, du coup, ça correspondait encore plus à l'état d'âme que j'avais déjà un petit peu avant.
sur France Musique, l'Adagio du concerto pour piano en ré mineur BWV 974 de Jean-Sébastien Bach. À la base, concerto pour hautbois d'Alessandro Marcello, ici interprété par notre invitée ce matin, Katia Bugnatichvili. Katia Bugnatichvili, donc un extrait de votre disque qui sort aujourd'hui chez Sony, Labyrinthe, et dans lequel, dans le livret, vous écrivez vous-même un petit mot sur chacune des plages, chacune des pièces que vous avez choisies. Et là, par exemple, vous écrivez « Si elle n'avait pas été absente, elle aurait marché pieds nus sur la terre chaude. Elle aurait pensé « Le printemps d'un autre est agréable à regarder aussi ». Il y a de la douleur et à la fois de l'illumination dans ce...
Oui, il y a surtout perception. Oui, tout à fait. Et il y a aussi la perception de l'absence, c'est-à-dire nous sommes là et quand nous sommes plus là sur cette terre, c'est de l'absence. Le reste, je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Mais en même temps, il y a cette perpétuelle changement de vie, c'est-à-dire il y a une vie qui part, mais il y a l'autre qui arrive. Et c'est, je trouve que c'est triste, mais en même temps c'est joyeux. Et Bach permet ça, en fait, de mélanger l'amour, la vie d'une façon tellement naturelle et dans la continuité qu'on accepte certaines choses, qu'on réalise certaines choses, mais on accepte aussi. On peut se ravir aussi pour la joie de quelqu'un d'autre, pour la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est aussi dans le partage, c'est-à-dire moi, je donne tout, je pars, mais c'est à toi. Ça peut être la même chose quand nous sommes tous vivants, mais ça peut être tout simplement changement de vie, la perpétualité de changement de qui prend la place en ce moment et qui vit en ce moment, qui est absent en ce moment. Cette mélange et cette transition.
Et justement, avec ce titre Labyrinthe, on se laisse porter comme, je sais pas où la pianiste m'emmène, et il y a comme une quête sans fin, très agréable, on se laisse porter comme dans un film.
Merci.
Il y a quelque chose de très cinématographique là-dedans, un gros travail sur la narration.
Merci, parce que c'était le but, mais après, ça peut être votre choix aussi, où vous voulez aller, c'est-à-dire voir de votre manière, là où je vous aimerais amener, mais en fait, c'est vous qui décidez finalement à la fin, je trouve quand même, parce qu'on a, ce sont des œuvres qu'on peut avoir une interprétation et compréhension très différente. Par exemple, Bach, on peut avoir différentes perceptions de sa musique, Gainsbourg, Satie, on peut chacun avoir notre regard très particulier. Mais en même temps, j'ai une vision très claire pour moi, très subjective, mais je trouve ma vérité dans chaque compositeur et ça peut être très convaincant le chemin que je propose, c'est-à-dire les chemins qu'on choisit à gauche, à droite, devant ou en arrière, c'est très concret et peut-être convaincant pour certains, pour d'autres, ils préfèrent interpréter de leur manière. Mais merci si j'ai pu vous amener quelque part, c'est un grand compliment. Parce que c'est aussi le but de se perdre, parce que nous sommes, je pense, tous assez perdus dans le labyrinthe. Ce n'est pas vraiment notre choix, il n'y a pas vraiment la sortie. Juste, on s'adapte dans cette perpétuelle perte de soi-même dans le labyrinthe et ce qu'on cherche finalement c'est les soulagements et nous sommes perdus parce que notre intellect est trop compliqué et parce que c'est les données mais aussi nous retrouvons pas mais nous trouvons soulagement je pense pour notre intellect dans les émotions et c'est pour ça que j'ai essayé de vraiment trouver les points où je pouvais vraiment m'appuyer sur les moments émotionnels dans le disque.
Et alors, pour revenir au cinéma, on trouve Ennio Morricone, musique du film Il était une fois en Amérique, dernier film immense classique de Sergio Leone sorti en 84 avec le Deborah Stem, musique qui revient tout au long du film. Vous l'avez enregistré, triste coïncidence, en juin dernier, donc juste avant la mort du grand compositeur qui nous a quittés le 6 juillet.
En fait, je pense que souvent, on a peur de dire un génie sur un compositeur ou tout simplement un artiste parce que on a peur de risquer ce mot pour et ne pas être, je ne sais pas, ne pas comprise par d'autres si on a des conceptions ou si on a une perception de génie qui est très subjective. Donc, on risque pas souvent de nommer des grands noms les gens qu'on considère qui nous touchent et qui nous bouleversent. Quand on considère comme des géants, on a peur de s'exprimer dans la vie. Donc, moi, je voulais faire justement ça. Je voulais montrer que j'ai pas peur de mettre Morricone à côté d'autres compositeurs, grands compositeurs, parce que j'ai dit à la personne qui a enregistré, je lui ai dit que, en fait, je voulais qu'il trouve sa place parmi ces compositeurs-là.
Pendant sa vie. Se trouve à côté de Ligeti, Brahms, Rachmaninoff, Villa-Lobos dans votre disque.
Parce que j'aime et pour moi, je voulais mettre les choses que j'aime et j'avais pas peur de mettre tout, justement ensemble. Je voulais pas faire un film musique de film séparément. J'avais pas peur de mettre Morricone à côté de ces grands compositeurs. C'était le but. Mais je voulais le faire aussi parce qu'il était vivant. Et après, voilà, en juillet, ça s'est passé. C'est triste.
Vous aviez pu le rencontrer, Ennio
Morricone? Non, justement, non. Et j'ai pensé beaucoup à ça, s'il allait aimer ce que j'ai fait, quelle réaction il aura. Je pense que c'est pas nécessaire de rencontrer les compositeurs dans le sens que, en fait, l'essentiel qu'on peut voir d'eux, qu'on peut entendre d'eux, c'est dans leur musique. Rencontrer en personne, il y a trop de choses autour pour qu'ils soient vraiment là pour nous. Alors qu'avec la musique, ils nous donnent tout leur temps.
C'est très intense. Ouais, je vois ce que vous voulez dire.
Il a le temps pour nous. Morricone, il avait le temps pour moi parce que sa musique était dans ma vie. Par contre, si j'allais le rencontrer, ça sera juste une rencontre entre deux personnes. Lui avec une grande carrière, moi de ma manière avec ma carrière, ça aurait été juste ça. Mmh. Alors qu'avec la musique, c'était beaucoup plus intime, je trouve.
Est-ce que vous pensez indéniablement au film et à la prestance de Noodles? Ou est-ce que vous arrivez à vous concentrer uniquement sur la partition? Du mettre sortir du film, ça devait pas être si facile?
Non, mais en fait, c'est ça le génie de Morricone. Je pense que dans le film, il arrive, surtout dans ses films, dans beaucoup de films, et ça c'est vraiment...
Là, on parle de Il était une fois en Amérique avec Noodles, oui. Le personnage principal.
Bien évidemment. Dans ses films, la musique, je pense que ça correspond tellement à chaque émotion qu'il veut exprimer. C'est tellement génial, parce qu'il arrive vraiment d'une façon très pure à exprimer ce qu'il a envie d'exprimer dans le film. Il est très proche du scénario, et je pense que le film est déjà génial, un chef-d'œuvre. Donc, la musique correspond tout à fait à ce thème de cette jeune fille qui rêve. En fait, et pareil, chaque personnage, ils rêvent tous de leur manière. Certains sont plus grands dans leurs rêves et sont plus généreux peut-être envers des autres. D'autres, ils sont plus se concentrer sur soi-même. Peu importe, chacun ses défauts et ses qualités. Mais en fait, ce que j'aime dans ces thèmes, c'est vraiment ressenti de compréhension de l'amour pur. C'est-à-dire que quand on est adolescent, on a l'imagination de l'amour qui est pur et éternel. Et on croit tellement en ça qu'il n'y a pas un autre argument qui pourrait gagner sur notre argument que l'amour, c'est pur et éternel et unique. Bien sûr, on a raison à cet âge-là. Peut-être après, on change d'avis, mais je pense que c'est là que nous sommes vraiment purs et fraîches et notre regard est tellement particulier. Donc, pour moi, quand j'écoute ce thème, c'est tout à fait ça. Donc, c'est difficile de ne pas penser à Deborah et à cette partie dans ces films qui est aussi pure avant que ça devienne aussi ambigu et complexe et tragique. Donc c'est très personnel finalement, sa musique et le film aussi, et très universel, je trouve.
Le thème de Deborah, signé Ennio Morricone, musique du film Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, interprété par mon invité ce matin, notre invité à France Musique, Katia Buniatichvili. Je rappelle la sortie aujourd'hui de votre disque Labyrinthe, 18 pépites d'une extrême douceur. Vous disiez dans une interview l'an dernier, Katia Buniatichvili, j'aime bien choisir les compositeurs en correspondance avec mon état d'âme, et vous en parliez tout à l'heure de votre état d'âme. Quel est votre état d'âme là maintenant? Vous nous joueriez quoi maintenant s'il y avait un piano là juste à côté?
Je crois que j'allais pas jouer, j'allais écouter seulement.
Ah, et alors écouter quoi?
En fait, on vient d'écouter Morricone et ça m'a vraiment donné... j'ai l'impression que je suis pas du tout dedans, c'est-à-dire j'ai l'impression d'écouter seulement la musique. Et c'était un petit peu aussi mon but, c'est-à-dire qu'il y a bien évidemment la signature de l'interprète dans cet album de moi, parce que je pense que quand on a une signature, on peut pas vraiment effacer, c'est impossible. Mmh. Mais en fait, je voulais vraiment perdre dans les compositeurs et d'être vraiment fidèle de comment je les ressentais. Quand j'écoute, je ne me vois plus. C'est vraiment le compositeur que j'entends. Et j'ai découvert ça maintenant, en ce moment. Donc quand vous m'avez dit qu'est-ce que je voudrais jouer, en ce moment, c'est rien. Parce que justement, je ne veux pas me retrouver. Je préfère de se perdre dans la musique d'un compositeur.
D'une extrême douceur, je l'ai dit. Et puis, Katia Bunatichvili, vous êtes une femme solaire, fougueuse, pleine de liberté. On connaît vos interprétations aussi de compositeurs redoutables, comme Rachmaninov ou tout récemment le premier concerto pour piano de Beethoven que vous avez joué le 10 septembre dernier à la Philharmonie de Paris pour l'ouverture de la saison de l'Orchestre de Paris avec Marine Alsop à la direction. Un mot sur cette chef, première femme à avoir pris les rênes d'un orchestre américain, l'Orchestre Symphonique de Baltimore, et puis tout récemment, depuis la saison dernière, chef principal de l'Orchestre Symphonique de la Radio de Vienne. Ça a été une vraie connivence entre vous deux?
C'était une belle rencontre, je pense. Parce que, en fait, je ne savais pas qu'est-ce que je peux m'attendre. C'est bizarre, mais nous avons quand même des imaginations un peu préparées quand on rencontre des chefs. Parce que c'est souvent beaucoup de jeux de pouvoir, en général. Je sais pas pourquoi. Parce que je pense qu'il n'y a pas, il y a beaucoup de chefs d'orchestre, mais il y a très peu qui sont, à mon regard, c'est très subjectif, qui sont des vrais musiciens, des vraies personnes qui apportent quelque chose de très beau à la musique et à l'interprétation. Comme partout, je pense, dans tous les métiers, il n'y a pas toujours, il y a beaucoup de professionnels, mais il y a certains qui nous touchent plus que d'autres. Souvent, c'est le jeu de pouvoir que je rencontre d'abord et après la musique. Ah ouais. En fait, c'est très difficile de nager dans cet univers, dans ces sens-là. C'est pour ça aussi que je fais beaucoup de récitals. Mais j'avais une idée de ça aussi. Oui. Je ne savais pas comment ça se passait avec une femme chef d'orchestre. J'ai déjà joué avec Nathalie Stutzmann, par exemple. Mmh. Avec elle, c'était juste magnifique au niveau humain et musical. C'était très facile, très simple. Pas facile, mais simple, je dirais. Parce que c'était naturel et authentique. Je ne savais pas quoi attendre ici. Mais certainement, je n'ai pas vu jeu de pouvoir, en fait. Et je ne sais pas si quelque chose lié avec d'être une femme ou un homme. Je ne pense pas. Mais peut-être parce que les femmes, maintenant, il y a une tendance dans le bon sens de vraiment se soutenir quelque part, surtout pour les chefs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes chefs, parce que cette porte était fermée pour les femmes.
Et puis elle a été jury justement du concours de la Maestra, de chef d'orchestre récemment aussi.
Oui, cette porte était fermée parce qu'il y a beaucoup de pouvoir quand on est chef d'orchestre, on est leader quand on est chef, on a l'orchestre, on a le pouvoir dans le business musical, je ne veux pas parler de cette manière, mais c'est la vérité. Donc plupart du temps, c'était fermé pour les femmes, donc je ne savais pas quoi attendre. Mais en tout cas, il y a cette tendance de plus de compréhension entre les femmes et il n'y a plus envie de faire les jeux de pouvoir, je pense. Et c'était très naturel, très authentique. On n'a parlé que de la musique et il n'y avait pas de signes de cachet ou de double sens et c'était très agréable. Mais je n'ai pas différencié l'homme-femme. C'est l'interprète qui compte, c'est l'individu qui compte pour moi. Mais malheureusement, il faut faire ces mouvements, dans le sens que si on ne fait pas ça, il n'y aura jamais vraiment d'égalité. Après, c'est dommage parce qu'on devrait parler de l'individu et non pas de qui nous sommes.
Katia Bunatichvili, nous allons vous écouter dans le final du concerto pour piano numéro 3 de Rachmaninov. Un homme, cette fois-ci, à la baguette, pas à Vojarvi, avec l'Orchestre Philharmonique Tchèque, et donc vous, au piano. Thank you. final, un extrait du final du concerto pour piano numéro 3 en ré mineur, l'opus 30 de Rachmaninov avec l'orchestre philharmonique tchèque et Paavo Järvi à la direction et Katia Bugnatichvili au piano solo. Notre invitée ce matin sur France Musique, Katia Bugnatichvili, un petit mot sur l'actualité. Alors vous, vous êtes une pianiste de renom installée. Est-ce que en ce moment, particulièrement en plus avec la crise sanitaire, vous vous faites du souci pour ceux qui commencent leur carrière aujourd'hui?
Oui, je pense qu'on fait ceci pour tout le monde, c'est-à-dire ceux qui commencent et qui sont au milieu ou ceux qui sont justement vers la fin de leur carrière et penser, imaginer différemment leur fin de la carrière, mais ils doivent changer leur regard sur la vie aussi quelque part parce que ça change tout, perspective de vie, ça change. Pour les jeunes qui commencent, c'est difficile, mais je leur dirais que ce n'est pas grave parce qu'ils sont encore très jeunes. Ils sont tous devant eux et c'est peut-être plus simple pour eux de s'adapter à cet nouveau univers. Pour moi, c'est plus difficile. Je suis jeune aussi, mais moins que certains.
Vous avez 33 ans.
Oui, merci de me rappeler. Non, mais c'est dans le sens que tout va vers l'Internet quelque part. Et même cette situation d'aujourd'hui, et pour moi, c'est difficile parce que moi, j'aime bien les rapports plutôt réels, de vous voir en vrai, de voir mon public en vrai, de le ressentir, de se toucher. Moi, je préfère ça. Mais bien sûr, l'Internet, ça a sa place, mais ça ne doit pas prendre tout l'espace qui est les rapports humains. Donc, pour les jeunes, c'est plus simple probablement de s'adapter parce que c'est leur
époque. Ils sont nés avec ou presque.
Oui, c'est ça. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de contacts avec les jeunes, surtout avec le projet de Demos.
Dont vous êtes marraine.
Oui. J'aime beaucoup cette organisation et le but de cette organisation parce que nous rencontrons pas seulement les jeunes qui vont devenir les musiciens, mais tout simplement nous rencontrons tous les enfants qui sont membres de Demos, des orchestres de Demos, qui tout simplement sont là pour avoir un contact avec la musique classique. Après, ils peuvent choisir s'ils veulent devenir musiciens, s'ils seront juste les mélomanes ou si juste la musique classique va prendre une place dans leur vie. Et c'est ça qui est beau parce que souvent quand on devient musicien, on commence très jeune. On a l'impression qu'on n'a pas vraiment le choix. Il faut vraiment réussir ou alors on est complètement perdu. Et je pense qu'on peut être beaucoup plus éclectique et c'est une très bonne approche humaine. D'abord, parce que c'est un projet social aussi, parce qu'on pense que la culture et la musique, ça doit être la partie du quotidien. Et aussi parce que la musique et en général tout ce qu'on fait, la culture, ça doit être la partie de vie de tout le monde. Il ne doit pas être de barrières et hiérarchie sociale. Et Demos, c'est justement ça, en fait. C'est pour tout le monde, la musique pour tout le monde, pour tous. Donc, on aimerait apporter ça à tous les enfants. Après, ça, c'est à eux de décider ce qu'ils veulent faire avec.
Katia Bugnatichvili, dernière question. Vous vivez en France, vous avez la nationalité française maintenant depuis quelques années. Un petit clin d'œil avec un hommage à Gainsbourg. La Javanaise, interprétée par Juliette Gréco, première interprète de ce tube, qui nous a quittés le 23 septembre dernier. Encore une triste coïncidence, on pourrait dire, dans votre disque, une figure, un personnage qui vous parle, Katia, quelqu'un de très libre, très fort.
Tout à fait. Une femme qui n'avait pas peur d'exprimer ce qu'elle voyait dans l'interprétation. C'est-à-dire vraie interprète qui faisait tout librement et d'une façon très expressive, assez extrême, je dirais. Donc c'est ce côté-là, ça me touche. Ça me bouleverse et ça me fascine.
Oui. Merci beaucoup. Merci Katia Bugnatichvili. Je rappelle la sortie de votre disque Labyrinthe qui sort donc aujourd'hui chez Sony. Un grand merci d'être venu nous voir à France Musique.
Merci à vous, c'était un moment très agréable.
On vous retrouve très prochainement au concert, évidemment, si la situation sanitaire ne s'aggrave pas. Le 21 janvier à la Fondation Louis Vuitton et puis retour à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Paris dirigé par Jaap van Zweden les 3 et 4 février. Programme Concerto numéro 23 de Mozart. Un grand merci.
Merci à vous.
Bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.